Mesdames, Messieurs, merci de renouveler votre confiance à Radio Serré 105.5 MHz. Bienvenue à l'écoute de votre émission hebdomadaire « Usagers de la route ». Dans l'édition de ce jour, nous parlerons des premiers secours en cas d'accident sur la voie publique. Comment se comporter si on est impliqué ou témoin d'un accident de la circulation? Comment porter assistance aux victimes d'un accident de la circulation? Quels sont les gestes à poser et surtout ceux à éviter lorsqu'on porte secours à ces victimes? Ces questions et bien d'autres encore constitueront le fil d'Ariane de cette émission. Comme personne ressource pour en parler, Madame Andaline Dabéa-Pauline-Marie, moniteur secouriste et présidente du comité d'arrondissement de la Croix-Rouge de Marois 1er, est notre invitée du jour. Pour vous servir aujourd'hui, Maxino est à la technique et David Bayan à la coordination. Au micro de présentation, je suis Steve Febi. Merci de nous recevoir chez vous. Votre fidélité nous honore. Amis auditeurs, vous êtes bien sur la 105.5 MHz Radio Serré. À l'écoute de Usagers de la route, votre émission de sensibilisation sur la circulation routière. Nous restons fidèles à notre objectif qui est de vous édifier sur les règles de la circulation routière afin de limiter au maximum les actes d'incivisme et les risques d'accidents sur nos routes. Et comme il est quasiment inévitable que des accidents se produisent, nous avons choisi de vous entretenir aujourd'hui sur les premiers secours en cas d'accident de la circulation. En effet, les accidents de la voie publique sont de plus en plus fréquents et posent des problèmes de conduite à tenir sur les lieux de l'accident et même parfois l'hôpital où les accidentés sont évacués. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 1,3 million de personnes perdent la vie dans un accident de la route chaque année. On recense ainsi plus de 20 à 50 millions de blessés et nombre d'entre eux gardant une invalidité à la suite de leurs blessures. Il est démontré que plusieurs personnes victimes d'accidents perdent leur vie ou une fonction vitale, soit à cause d'une prise en charge tardive, soit à cause d'une mauvaise manipulation après un accident de la circulation. Il importe donc de vulgariser les techniques et actions nécessaires à la préparation et à la réponse immédiate en présence des blessés de la route. Pour cela, il faut améliorer le savoir et les compétences en termes de premiers secours de la population en général, des conducteurs, des passagers, des piétons, avec pour objectif qu'ils soient en mesure d'aider immédiatement et convenablement des personnes blessées sur la route. Toujours selon l'Organisation mondiale de la santé, dans son rapport 2018 de la situation sur la sécurité routière dans le monde, la pratique des gestes de premier secours, en particulier le positionnement correct de la victime en attendant l'arrivée des équipes d'intervention d'urgence, peut, lors d'un accident de la route, faire la différence entre la vie et la mort. Cette nécessité de maîtriser les gestes de premier secours vaut son pesant d'or dans notre contexte, où les victimes d'accidents sont très souvent manipulées par des mains inexpertes, bien qu'animées de bonnes intentions. À cela s'ajoute l'intervention le plus souvent tardive des équipes de secours, qui mettent à mal le pronostic vital des victimes. Comment donc porter secours aux victimes d'accidents de la circulation? Nous allons en parler tout au long de cette émission avec notre invité. Mais avant de l'accueillir, je vous propose d'écouter ce micro-trottoir dans lequel des usagers de la route de la ville de Marois partagent avec nous leurs connaissances sur les premiers secours en cas d'accident.
Impliqué ou témoin d'un accident de la circulation, ça va dépendre d'abord de mon état à moi. Si je suis à mesure de porter secours à certaines victimes, je pense que la première des choses, sans être un expert en secourisme, c'est d'extirper ou de sécuriser davantage les victimes. Déjà enlever la victime sur la chaussée. Une fois que la victime a été retirée de la chaussée, on peut mettre... Généralement, chez nous en Afrique, on n'a pas souvent dans nos véhicules le matériel nécessaire pour signaler qu'il y a un accident. Généralement, chez nous, on coupe les branches d'arbres qu'on jette sur la chaussée pour signaler aux automobilistes qui arrivent qu'il y a un cas critique sur la chaussée. C'est-à-dire que si celle-là est présente sur la chaussée ou son état de santé ou alors... elle est exposée à être davantage plus en insécurité. Je crois que la première action, c'est de l'enlever de ses rayons pour mieux prendre soin d'elle. Une fois que cette action a été menée, on la met en position latérale de sécurité pour davantage lui administrer les premiers secours qui pourront permettre à ce que soit ne soit pas impacté sur le plan psychologique ou sur le plan mental. Si la victime saigne abondamment, je pense qu'il faudrait localiser l'origine de la plaie. Et une fois que la plaie a été localisée, faire une sorte de garrot, pour, comme on l'a vu avec les morsures de serpent, pour essayer de ralentir le saignement pour que la personne arrête de saigner. Jusqu'à ce que les secours, les experts... Ce qui est sûr, c'est que dans le lieu de l'accident, je ne saurais être la seule personne. Peut-être dans la panique, je pourrais ne pas être ou avoir l'état d'esprit de penser d'abord à appeler les secours. Donc, je vais d'abord aller vers la personne qui est plus dans le besoin. Éventuellement, maintenant, appeler les autres secours qui viendront avec le matériel adéquat pour stabiliser la victime. Si la victime est inconsciente et qu'elle ne respire pas, je pense que l'idéal, c'est d'appeler rapidement les secours qui viendront, qui apporteront une assistance plus appropriée au cas qui se présente.
Moi, c'est Sigak, bienvenue. Bon, je conduis la voiture permis B. Comment se comporter dans l'accident? S'arrêter, aller vers la personne. Et tant plus que tu es victime, tu vas aller vers la personne doucement, causer. S'il y a trop de blessures, si tu as les moyens, tu dialogues. Si peut-être l'accident, toi qui as été victime, disons, je prends par moi-même, disons, bon, je dois amener la personne à l'hôpital. Ou bien si ce n'est pas grave, on s'entend à l'amiable. Premier secours, il doit appeler le 117. Le 117 au secours, oui. Pour être honnête, quand tu es un conducteur, oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire sur place pour aider la personne? S'il y a une bande ou bien quelque chose, pourquoi pas que la personne, tu attaches ou ça a blessé la personne. Bon. Tu appelles l'ambulance, si l'ambulance ne vient pas au cas, tu stoppes un moto-taxi, tu l'amènes urgentement à l'hôpital. Un membre cassé, le pied cassé, il ne peut pas se bouger. Bon, comme maintenant, on a les motos tricycles, bon, tu les stops. Venez me soutenir pour soulever la personne doucement, le mettre sur votre tricycle. Doucement, on soulève la personne. Comment? Tu sens mal? Tu lui demandes, non, ah, je sens mal. Ah, on se repose d'abord. On fait comment? On peut avancer. Bon, le blessé ou bien celui qui s'est cassé les pieds, les fractures. Donc ça va, on peut aller. C'est ça. Si tu fais l'accident sur l'axe lourd ou matérialisé, portez la personne. Prendre les panneaux, si vous avez les panneaux, ou bien les gagner, mettre derrière et en avant pour savoir que non, c'est un danger qui signale déjà à l'axe lourd. Pas qu'un camion vient comme ça ou bien une voiture à une vitesse très longue. C'est pas bon. Donc, doit mettre au moins à 6 mètres. 6 mètres de l'autre côté, devant et derrière, en attendant pour sécuriser la personne. Oui.
Moi, c'est Georges. Je suis conducteur de moto. Depuis 4 ans aujourd'hui, en cas d'accident, il faut d'abord essayer de signifier aux autres automobilistes qu'il y a un accident sur la place en coupant par exemple une branche ou bien en se servant d'un objet et le placer un peu soit en amont et en aval du lieu de l'accident afin de signifier à tout engin, à tout automobiliste qui vient par là qu'il y a une situation, il y a un cas d'accident sur place. Si je suis impliqué dans un accident, ce que je fais, c'est d'abord de venir à l'aide aux accidentés, c'est-à-dire essayer de les assister physiquement. Et puis, bon, composer le numéro des forces de l'ordre, de la police, ou bien des sapeurs-pompiers, selon le niveau ou bien l'ampleur de l'incident. Bon, si les pompiers tardent à venir et que la victime souffre, je vois d'abord sur place, est-ce qu'il y a quelqu'un du corps de la santé ou bien quelqu'un du corps du sapeur qui est là sur place? Au cas contraire, moi-même, j'essaye d'intervenir, c'est-à-dire de secourir ceux qui sont accidentés là, afin que les dégâts ne soient pas énormes. Si la victime ne respire plus, il y a des gestes qui visent à ranimer, à remonter, à ramener la victime avec des gestes, essayer un peu de le coucher sur le dos afin de lui donner un peu l'espace afin de respirer, lui donner un peu le pouls à travers le bras en poussant un peu au niveau de la poitrine si jamais il peut être réanimé. Bon, si la victime saigne abondamment, ce que moi je fais, c'est essayer d'attacher un garrot selon le niveau où la blessure se trouve. Si le saignement se trouve au niveau du bras, Là, j'essaie d'attacher rapidement un garrot. Si c'est au niveau du pied, j'essaie d'attacher un garrot. Ça, c'est un peu ce que je pourrais faire en cas de saignement abondant.
Minindam Ibrahima Adamu a lumu miskino mi huwata mi taer foti banito mi nusa dolal ban be moto mi tawi accident wadi mi tawi ko don soufra malat foti mi wacho mi yar l'hopital be be soña mo mi yona yimbe ngara balitam mi ngara ko cham malat man on to bat yam rufi jura mako daga yimbe bo ngara walti gam ha mi wosamo mi habda mi ronda monon dabita l'hopital badde be mi yaram waton dum bo mi habda de dey ko Allah andini am to mi bukkan mo mi an kam labitanni mo wani no mi heba mi yaram l'hopital kam heba be soñam mo lawlaw mi heba moto mi dana moto kilando ko bo moto taxi ando mi hosa mi yar l'hopital to noni do wala hala ni beni e yaram moto hal l'hopital baw don kadi fudda problem fere mi ataka mi darna moto tan dan circulation ko mi heba gagne ga sera mi joina lawol moto dara mi hosa malat kadi mi tasan wadda ga sera après que son continue la modum mi heba taxi mi lo malat am dila l'hopital.
Si je suis victime ou témoin d'un accident de la circulation, je pense qu'il faut essayer de sécuriser l'endroit, interpeller tous ceux qui passent pour leur faire comprendre que la circulation ne peut pas continuer de se dérouler de manière normale, qu'il y a un accident et que la priorité, c'est effectivement de porter secours aux personnes accidentées, aux victimes. Normalement, ce qu'il faut faire, c'est essayer de se placer au milieu de la route, faire de grands gestes, peut-être chercher des objets qu'on peut placer sur la chaussée pour pouvoir interpeller les gens qui passent, pour qu'ils comprennent qu'il y a un obstacle là et qu'ils puissent s'intéresser à ce qui se passe. En tant que témoin, par exemple, je crois que la chose à faire, c'est essayer de voir s'il y a effectivement des victimes et comment leur apporter secours. Les premiers secours, éventuellement faire ce qui est à mon niveau et essayer aussi peut-être d'appeler les personnes compétentes pour qu'elles puissent bénéficier des soins plus intensifs, le plus rapidement possible. Ce qu'il faut leur dire, leur décrire tout simplement la situation. Il y a eu tel accident et voici quelle est la situation, voici les personnes, il y a des personnes accidentées, elles sont dans tel ou tel état et nous trouvons à tel ou tel endroit, etc. Si la victime est inconsciente, peut-être prendre son pouls pour essayer de voir si elle est toujours vivante. Peut-être éventuellement, pourquoi pas faire un bouche-à-bouche. Demander également conseil aux personnes qui sont autour de moi, etc. pour voir ce qu'on peut faire pour la personne. Si la victime saigne abondamment, je pense que ce qu'il faut faire, c'est essayer de juguler le saignement en attendant les secours.
Auditeurs et auditrices, usagers de la route, vous êtes toujours sur la 105.5 MHz Radio Serré, à l'écoute de votre émission hebdomadaire de sensibilisation routière. Aujourd'hui, nous parlons des premiers secours en cas d'accident de la circulation. Pour approfondir le sujet, nous allons à présent recevoir, comme annoncé en titre, Madame Andaline Badé Apolline Marie, moniteur secouriste, par ailleurs présidente du comité d'arrondissement de la Croix-Rouge de Marois 1er. Madame Andaline, bienvenue sur Radio Serré.
Merci, c'est partagé. Je suis vraiment ravie de vous rencontrer et le plaisir est partagé.
Alors, en votre qualité de secouriste, nous allons parler aujourd'hui des premiers secours en cas d'accident sur la voie publique. Alors, lorsqu'on parle de premiers secours, à quoi fait-on allusion?
Ok, merci déjà d'aborder ce thème qui me va droit au cœur. Lorsqu'on parle des premiers secours ici, on fait allusion à une personne qui est en situation de détresse. Et en ce moment-là, il faudra lui apporter de l'aide. Et ce type d'aide peut être moral, en même temps qu'il peut être pratique. Donc on peut résumer en disant que c'est un geste pour aider des personnes en détresse.
Alors, quelles sont les situations sur la voie publique qui pourraient nécessiter l'administration des premiers secours à un usager?
Toute situation qui peut rendre une personne comme vous et moi en situation de détresse nécessite un geste de premier secours.
Donc, on retient que ce n'est pas forcément uniquement en cas d'accident de la circulation.
Effectivement, ce n'est pas seulement en cas d'accident de circulation qu'on peut porter un geste de premier secours. Par exemple, chez nous, on assiste toute personne en situation de détresse. Ça peut être lors d'une catastrophe, ça peut être lors d'un conflit, par exemple. Il y a une bagarre, par exemple. Ça peut aussi être le fait que la personne est abattue moralement. Il a besoin également des premiers secours moraux pour le réconforter, effectivement.
Mais je précise pour la gouverne de nos auditeurs que nous allons nous focaliser uniquement sur les premiers secours en cas d'accident de la circulation, étant donné qu'on est dans le cadre, bien évidemment, d'une émission qui fait dans la sensibilisation sur la sécurité routière. D'après vous, c'est quoi un accident de la circulation et quels sont les différents types d'accidents qu'on peut rencontrer sur la voie publique?
Mais bon, mais écoutez, un accident, c'est un accident. Je ne sais pas comment je peux vous l'expliquer. Un accident, c'est tout ce qui a trait, par exemple, un individu, par exemple, sur un engin, et par manque d'attention, peut se retrouver dans une situation inconfortable. Vous voyez déjà que on peut parler en ce moment de l'accident. Mais maintenant, on peut noter des dommages. Après cette situation, on peut noter des dommages. On peut, par exemple, noter des blessures à l'endroit de celui-là qui était, par exemple, sur la moto, ou bien la personne, le piéton, par exemple, qui était en pleine circulation, en pleine marche, il a été confronté à un engin, un vélo, je ne sais pas trop. Vous voyez, en ce moment, on peut parler d'accident.
Lorsqu'un accident de la circulation se produit, quel comportement doit adopter le conducteur s'il est en état de réagir, bien sûr, en cas d'accident dans la route impliquant son véhicule ou d'autres usagers?
Le tout premier comportement qu'il faut adopter ici, c'est d'abord de garder son sang-froid. Parce que lorsqu'on panique, on peut créer encore une autre situation qui peut faire, qui peut nous amener à une autre situation qu'on ne pourra pas contrôler. C'est d'abord d'avoir son sang-froid, de se rapprocher calmement de la personne à qui on a affaire et d'appliquer le geste qu'il faut à la place qu'il faut.
Alors, on va justement essayer de décrypter tout cela, hein, pas à pas. En cas d'accident de la circulation, habituellement, il est préconisé de sécuriser la zone accidentée. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Pourquoi, par qui et comment cela doit-il se faire?
Je commencerai par qui, hein, par qui tout le monde peut le faire. Sécuriser, pourquoi? Parce qu'il faut... Vous savez, quand on porte secours, il faut une sécurité pour soi-même. Il faut une sécurité pour notre survivante, la personne qui est touchée. Mais maintenant, quand on parle de barrer la route, comme vous le dites, on parle ici, en termes techniques, on parlera de balisage. Maintenant, le balisage consiste ici, il n'y a pas seulement que les panneaux qui sont dans des véhicules ou bien, dans des auto-écoles qu'il faut utiliser. Maintenant, comme on est dans la communauté, qu'est-ce que je peux apporter? Nous avons des feuilles d'arbres. Nous avons, par exemple, des choses visibles qui peuvent nous amener à barrer les deux endroits afin d'être en sécurité et mettre également notre victime en sécurité pour pouvoir lui apporter le premier secours qu'il faut dans une tranquillité. C'est vrai qu'on n'est pas tranquille en ce moment, mais je me dis qu'il y a quand même une sécurité en ce moment-là et il faudra également le faire pour éviter le suraccident. Parce que vous voyez, nous sommes dans une voie publique. Et ça va dans tous les sens. Nous sommes dans la région de l'extrême, non précisément dans le Diamarais. Ça va dans tous les sens. Et là, maintenant, il y a des motos, il y a des enfants, il y a des véhicules. Il faudra vraiment procéder au balisage de la route pour empêcher toute circulation et pour éviter des suraccidents.
En une phrase, cela consiste essentiellement à entourer l'endroit accidenté, à matérialiser l'endroit accidenté pour éviter que les usagers engagés sur cette voie-là ne viennent créer d'autres accidents. J'espère que nos auditeurs ont très bien compris qu'il est nécessaire justement de matérialiser chaque endroit où il y a un accident avant de commencer à porter secours aux personnes accidentées. Alors, une fois que cela est fait, il est demandé d'évaluer l'état des victimes. À ce niveau, que faut-il faire concrètement?
Ok, quand on parle d'évaluer la victime ici, l'évaluation ici consiste à faire ce qu'on appelle techniquement la CVC. La CVC ici, c'est un sigle. Le premier C, c'est de vérifier la conscience de notre victime. Le V ici consiste à vérifier si notre victime ventile. Et le troisième C consiste à vérifier si notre victime circule, si son sang circule.
Après qu'on ait évalué l'état de la victime, il faut alerter ou faire alerter les secours. Dites-nous, qui doit être alerté, par quels moyens doit-il être alerté et quelles sont les informations à transmettre à la personne qu'on alerte?
L'alerte ici se situe sur plusieurs niveaux. Le premier niveau ici peut se faire de bouche à oreille puisqu'on est dans une voie publique. On peut alerter une personne qui est en train de passer pour qu'il vienne nous aider à porter secours à celui qui est couché. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas ici, l'alerte peut être téléphonique. En ce moment, vous comprenez déjà qu'on peut utiliser l'appareil téléphonique pour appeler les services d'urgence. Notamment chez nous ici, nous avons des ambulances, nous avons des sapeurs-pompiers, le 118. Mais le véritable problème ici, c'est que lorsque des personnes se pointent à l'horizon pour prendre le téléphone et appeler ces 118, il y a des messages clés qu'il faut retenir. C'est d'être bref, parce qu'il faut exactement dire ce qui se passe. Tu ne vas pas prendre le téléphone, appeler, parce qu'ils en ont aussi à faire. Hein. Vous pouvez imaginer combien de personnes les appellent en une journée. Alors, lorsque vous les appelez, il faut, premièrement, il faut se présenter. Deuxièmement, il faut donner le lieu où on se trouve. Troisièmement, il faut dire pourquoi on appelle. Quatrièmement, il faut donner le nombre de victimes que nous avons en face. Cinquièmement, il faut dire le geste qu'on a posé. Ceci leur permettrait de se préparer en conséquence s'il faudra qu'ils se déplacent pour qu'ils aient le maximum de matériel qu'il faut pour pouvoir porter secours à ces lieux-là. Voilà. Autre alerte ici, c'est qu'on peut aussi alerter les membres de la famille de la personne qui est couchée. Raison pour laquelle je profite ici de l'occasion pour interpeller des personnes, des usagers de la communauté pour dire qu'il est très important de nommer les noms des personnes dans le téléphone. À l'exemple de dire, peut-être c'est mon papa, au lieu d'écrire par exemple Papichou ou quoi, je ne sais pas trop, on peut écrire papa ou bien mon père. Si c'est ma mère, il faut écrire c'est ma mère. Si c'est mon frère, ma soeur, il faudra le nommer dans le téléphone. Pourquoi? Parce que face à ce genre de situation, ça permettrait aux sauveteurs d'appeler facilement et entrer en contact avec les membres de la famille pour pouvoir vous rejoindre le plus rapidement possible où on va vous orienter dans le centre de santé ou à l'hôpital régional de Maroua.
C'est suffisamment clair. Alors, on va récapituler un peu la situation. Un accident de la circulation s'est produit dont je suis témoin ou impliqué et que je suis en état de réagir. J'ai sécurisé l'endroit où l'accident s'est produit. J'ai évalué l'état des victimes. J'ai alerté les autorités compétentes pour secourir davantage les victimes. Et maintenant, on nous dit qu'il faut secourir les blessés en attendant que les pompiers ou le SAMU arrivent. Secourir les blessés, comment procéder si le blessé est inconscient?
Oui, mais comme je vous disais tout à l'heure, ici, c'est un processus qui est assez compliqué. Et maintenant, en tant qu'usager ou personne de la communauté, le plus important ici serait d'alerter le plus rapidement possible. Parce que je vais vous parler ici des massages. C'est normal de vous en parler. Mais tant que vous n'avez pas suivi une formation appropriée pour le faire, le plus important ici, le plus mieux, serait d'évacuer le plus rapidement possible dans un centre de santé le plus proche. On peut, si on peut le mettre en position d'attente hein, ou en position confortable, hein, confortable. Quand je dis position confortable ici, c'est la position à laquelle, c'est vrai qu'il est inconscient, hein, il est inconscient. Mais le plus mieux, j'insiste sur ça. J'insiste que le plus mieux, c'est d'orienter dans un centre de santé le plus proche de nous.
Et on va continuer. Comment procéder pour porter secours à un blessé qui ne respire pas?
Ok. Quand une personne ou une survivante en face de nous ne respire pas, je pense que c'est la même situation que le premier cas. Et on peut alerter et on peut évacuer le plus rapidement possible. Oui, c'est tout ce que je peux dire sur ça. Parce que là, maintenant, il va falloir que des personnes de la communauté se rapprochent de la Croix-Rouge camerounaise pour entrer en possession des formations. Parce que là, c'est juste des informations basiques que je suis en train de donner. Mais il y a des formations adéquates pour porter secours. Et vous voyez, lorsqu'une personne est déjà inconsciente, ça devient un peu compliqué quand une personne est inconsciente. S'il y a possibilité, il faudra libérer tout ce qui peut l'encombrer de respirer, notamment la cravate, la ceinture, par exemple, il y a des bagues. Si c'est une dame, il faut vérifier maintenant son soutien-gorge, il faut relaxer. Si c'est un homme qui a des chaussettes, il faut vérifier également les lacets de chaussures et libérer tout ce qui peut l'encombrer, mais le plus rapidement possible, il faut l'évacuer.
Alors, à l'opposé, je suis en présence d'un blessé qui respire, il n'est pas inconscient, mais il saigne abondamment. Comment lui porter secours?
Ici, à ce niveau, ce que je vous dirais, c'est qu'on peut passer à faire une compression manuelle directe. Les gens diront que c'est quoi une compression manuelle directe. Je vous invite à une formation en premier secours, c'est très, très nécessaire. Donc, on peut également faire un pansement compressif. Il y a aussi ce que j'ai l'habitude de voir dans la communauté, c'est la compression à distance. C'est-à-dire, tu vois une personne qui est en train de signer là, on se rassure d'avoir les mains propres ou avoir un linge bien propre et le poser sur la partie qui saigne et appuyer. Oui, effectivement, il faut vraiment appuyer. Si il arrive que le premier mouchoir ou le premier linge qu'on a déposé s'est mouillé, on peut en ajouter et puis attacher et l'évacuer dans un centre de santé le plus proche.
Alors ici, c'est une fracture. Prenons le cas d'un accidenté qui a une jambe cassée et qui ne peut pas facilement bouger. Comment lui porter secours? Admettons qu'on a donné l'alerte et que peut-être c'est dans 30 minutes ou une heure que les pompiers arriveront et qu'entre-temps, ils souffrent. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Déjà ici, ce que je peux dire, c'est un, il faut garder son sang-froid. Et de deux, il faut éviter de manipuler la partie fracturée. Parce que là, c'est vrai, peut-être lors des vérifications au départ, on a constaté qu'il y a une personne ou bien il y a une partie de son corps qui a été fracturée. Il faut éviter de manipuler. Il faut éviter également, lorsqu'on est en train de le positionner, il faut l'arrêter autour des articulations. Il faut l'arrêter autour des articulations. Vous voyez, ici, on cherche à réduire sa douleur. On cherche à réduire la détresse à laquelle la personne fait face. Donc, il va falloir l'arrêter au niveau des articulations et le positionner en état confortable. Donc, trouver un endroit adéquat pour que lui, il se sente à l'aise. Donc, dans un endroit confortable pour lui, pour l'instant, avant l'évacuation. Et le surveiller également de temps en temps.
Alors, je note, Madame Andaline, que vous avez beaucoup insisté sur la nécessité de se former avant de porter secours. Justement, dites-nous, concrètement, pour porter secours à ces personnes accidentées, lorsqu'on est en pleine circulation et qu'on est impliqué dans un accident, ou bien on est témoin d'une situation d'accident, est-ce qu'on a nécessairement besoin d'avoir une formation en premier secours?
Il y a des gestes qui sauvent, hein, que la communauté le fait déjà. Je pense que l'année dernière, nous sommes passés dans des communautés, identifier même des gestes déjà dans des communautés qui sont en train d'être appliqués. Et ces gestes, moi, je pense que si la communauté adopte ces gestes, pourquoi pas? Nous, même le premier secours, ce sont des gestes que la communauté le fait déjà, que nous sommes en train de le faire. Mais cette fois-ci, d'une manière encore plus attentive. D'une manière encore plus attentive. Donc, moi, je pense que tout ce que la communauté fait déjà face à une situation, face à une personne qui est en situation de détresse, c'est déjà très bien. Mais maintenant, ce qu'il faut faire pour renforcer davantage leurs capacités, il faut aller se faire former pour avoir des gestes et techniques qu'il faut à la place qu'il faut pour éviter de mettre des personnes qui sont en situation de détresse dans une situation inconfortable.
Quand vous parlez de gestes que la communauté pose déjà, il s'agit de quels gestes concrètement?
Et je veux parler, par exemple, la dernière fois, nous avons identifié dans une communauté dont je vais taire le nom ici, face à une morsure de serpent, par exemple. Il s'avère que cette communauté, quand quelqu'un est mordu par le serpent, ils utilisent l'oignon. Ils donnent à la personne qui a été mordue, sans toutefois appliquer quoi que ce soit, et avant de l'évacuer dans un centre de santé. Ça, c'est un geste vraiment qui sauve et que la communauté a trouvé nécessaire et très bien pour elle-même dans sa propre communauté.
Alors, généralement, en premier secours, il y a une expression qui revient, position latérale de sécurité. C'est quoi la position latérale de sécurité et comment la pratiquer?
J'aime bien le dire quand je forme, hein, en tant que moniteur secouriste, je l'appelle PLS, position latérale de sécurité. C'est une position d'attente. C'est une position d'attente dans laquelle, où, lorsque vous positionnez votre victime, c'est une position d'attente, comme je disais un peu plus haut, ça permet à la victime de se retrouver dans une situation confortable en attendant l'évacuation.
Et consiste à quoi cette position?
Oh, bon, il consiste à, si par exemple cette personne est couchée sur le dos, il va falloir le positionner, le basculer d'un côté, le pencher tout doucement d'un côté. S'il y a l'obstacle du côté gauche, on peut aller du côté droit. S'il y a l'obstacle, je vous parlais d'un endroit confortable, hein, ça dépend. C'est à vous de contextualiser, c'est vous qui voyez. Parce que dans tous les endroits ne se ressemblent pas. Vous voyez un peu, il suffit juste de le positionner ou le basculer en mettant, par exemple, sa main au niveau sous sa tête comme un oreiller pour permettre à sa tête de ne pas se baisser vers le bas parce que au risque de s'il a par exemple un truc qui le bloque à la gorge, au risque d'avaler, de mordre sa langue par exemple, et puis plier son genou et faire en sorte qu'il soit confortablement couché comme s'il était sur son lit. Vous voyez un peu, donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi on parle de position latérale de sécurité. Ouais, c'est une position, ça le rassure, on se rassure nous aussi, nous qui portons secours, on se rassure que notre victime est en sécurité, il est dans une position d'attente en attendant l'évacuation.
Alors, concrètement, sur le plan physiologique, comment est-ce que cette position peut garantir que la victime ne va pas développer ou alors souffrir davantage de l'accident qu'il vient de subir?
Oui, mais écoutez, il y a un truc que je n'ai pas signalé au départ. Et puis, à l'introduction même, quand je parlais des premiers secours ici, je vous ai parlé que le premier secours se situe en deux niveaux. Le premier est moral et le deuxième est pratique. Vous voyez, lorsque vous le positionnez, il est conscient cette fois-ci. On peut dialoguer avec lui. S'il se sent mal à l'aise, il peut vous le dire. Même s'il ne parle pas, il peut faire le geste. Et en faisant maintenant le geste, vous pouvez comprendre que la position dans laquelle vous êtes en train de positionner cette personne n'est pas confortable. Alors du coup, il faut changer juste.
Alors, toujours dans les hypothèses d'accident de la circulation, en attendant l'arrivée des secours, devant quelles circonstances est-ce qu'on peut être amené à pratiquer un massage cardiaque sur une victime et comment se pratique ce massage cardiaque-là?
Ici, je ne prendrai pas l'engagement de le dire à la communauté de l'appliquer. C'est très compliqué lorsqu'il faut parler du massage. C'est très compliqué parce que il y a des spécialistes qui sont au niveau de l'hôpital régional pour ce cas. À notre niveau, lorsque nous rendons compte qu'il y a des situations à notre niveau en tant que premier secours ou volontaire de la communauté qui est en train de vouloir porter secours, le plus mieux serait de référer le plus rapidement possible.
Alors, c'est vrai que vous avez déjà abordé quelques gestes dangereux. On va y revenir tout de suite. Quels sont les gestes à éviter lorsqu'on porte secours à un accidenté? Parce qu'on est conscient très bien qu'il y a des actions qu'on pourrait initier qui, au lieu de soulager la victime, peuvent plutôt aggraver son cas. Quels sont ces gestes-là qu'il faut absolument éviter lorsqu'on porte secours à un accidenté?
Il y a même déjà la panique. Il y a la panique, je vous assure. Lorsque quelqu'un fait l'accident et que vous venez vers lui pour porter secours, que vous-même, vous n'êtes pas préparé. Parce que pour le faire, il faut être préparé. Porter secours, il faut être préparé. La préparation ici, je n'arrête pas de dire qu'il est moral. Et c'est un engagement. Lorsque vous partez faire quelque chose et vous sentez que, à l'heure, si vous ne pouvez pas le faire, autant mieux bannir, autant mieux ne pas porter secours. Maintenant, face à une personne qui a besoin d'un réconfort, vous venez paniquer devant lui. Vous voyez qu'il ne peut même pas vous faire confiance. Déjà, s'il y a même des endroits sur lui qui fait mal, il ne pourra pas vous le déclarer parce qu'il ne trouve pas en vous une personne même. D'abord, il ne sera pas en sécurité. Donc, le premier geste, c'est d'éviter la panique. Il faut vraiment éviter la panique. Et il faut éviter également de manipuler la survivante lorsque vous êtes en face d'une personne qui est accidentée. Évitez de le manipuler. Et une autre chose que j'ai constatée, c'est que lorsque quelqu'un est couché par terre, désolé, je remarque le plus souvent des personnes qui prennent le téléphone pour le filmer. Là, vous voyez qu'il y a le respect de la dignité humaine. Il y a des personnes, au lieu de... Il a fini de le mettre, par exemple, dans une position d'attente. Il est en train de manipuler son téléphone. Vous voyez, ça fait perdre confiance face à la personne à qui vous avez affaire. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter lorsque nous sommes en train de porter secours. Garder son sang-froid. Il faut garder vraiment son sang-froid. Il faut éviter également de manipuler, d'être agité. D'être agité, le téléphone sonne, vous êtes au téléphone, vous êtes en train de porter secours, le téléphone, vous êtes sur connexion, vous êtes sur... Je ne sais pas trop moi, c'est pas bien. C'est pas bien.
Alors, toujours dans le registre des gestes à éviter, vous allez me dire si c'est conseillé, un accidenté qui demande à boire ou à manger, est-ce que c'est recommandé?
Oui, mais s'il a envie de manger, il faudra le lui donner. Si ce n'est pas un cas qu'on a diagnostiqué, moi je ne parlerai même pas du diagnostic. Hein. Lorsqu'on a parlé de l'évaluation au départ, vous voyez, c'est pendant l'évaluation que tout se passe. Si la première évaluation a été très mal faite, vous voyez que le geste qui va suivre sera également très mal fait. Maintenant, si l'évaluation a été très bien faite, le geste qui suivra également sera très bien fait. C'est que pendant que tu es en train de discuter avec lui, tu vas te rendre compte si c'est une personne consciente, il a envie de manger. Si c'est une personne inconsciente, il ne pourra même pas vous demander de l'eau. Vous allez juste remarquer qu'il a la pâleur des yeux, il a le refroidissement des extrémités. Il y a même des petites choses qui peuvent faire en sorte que vous remarquez que cette personne, elle est dans un état pas du tout bien. Il faudra vraiment qu'on l'évacue le plus rapidement possible.
Alors, lorsqu'il y a des engins qui sont impliqués dans un accident, est-ce qu'il y a des recommandations particulières pour les mettre hors d'état de nuit pendant qu'on est en train de porter secours aux accidentés? Par exemple, un moteur qui est en train de tourner, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait un accident dans une voiture, ce moteur tourne, ou alors il y a du carburant qui s'échappe. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre concernant ces engins-là?
Oui, déjà merci, Monsieur Steve. Nous sommes vraiment dans une réalité que nous vivons au quotidien. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut éviter déjà tout bruit autour de la personne qui a fait l'accident. J'ai vécu dernièrement une personne qui a fait l'accident. Il sortait du côté droit. Il a penché directement. Il est entré dans un caniveau. Alors, il y avait des motos derrière lui. Des gens ont commencé à crier comme si c'était lui. Je ne sais pas. Même s'il est fautif, moi, je pense que le plus mieux, c'est d'aller en douceur. De l'approcher calmement. Parce que lui-même, en ce moment, même s'il est fautif, il a besoin d'un réconfort. Les accidents, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Mais il faut aborder cette personne calmement. Je vous assure que dès que ce monsieur a ouvert le véhicule, il a pris fuite. Il a pris fuite. Il a trouvé refuge dans une boutique. Et c'est le boutiquier qui a remarqué que c'est le monsieur qui a fait l'accident. Il a couru parce qu'il paniquait, il tremblait, il transpirait. Il avait besoin qu'on vienne vers lui, l'orienter, le faire asseoir calmement au pied d'un arbre. Par exemple, pourquoi pas dans une maison même, le temps pour lui de retrouver ses esprits. Parce que lorsque quelqu'un perd contrôle sur le chemin ou bien pendant un accident de circulation, c'est pas du tout aisé. C'est pas du tout aisé. Et tout le monde a sa manière de faire. Chacun a son sens. Ça peut le prendre, il peut se déshabiller, il peut courir dans tous les sens et ça ne sera pas très bien pour lui.
Pour revenir justement à la question que je posais, est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Par exemple, le cas que vous venez de raconter, supposons que son véhicule est entré dans le caniveau, le moteur continue de tourner, lui il est au volant, il est coincé là. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre concernant l'engin en lui-même? Cette fois-ci, ce n'est pas l'accidenté, l'engin. Est-ce qu'il faut par exemple lui mettre l'engin hors d'état de nuit avant de porter secours à la victime?
Non, le tout premier geste, c'est qu'il faut d'abord arrêter le moteur pour éviter le bruit. Maintenant, le deuxième geste, c'est qu'il faut... La priorité, c'est l'individu d'abord. Le matériel vient après. Il faut mettre une priorité sur l'individu. Mais maintenant, le matériel, s'il est dans une position pas adéquate pour la communauté, je pense que pendant que l'individu est en train d'être transporté à l'hôpital, il va falloir également qu'on dégage le lieu, si c'est un lieu public, le plus rapidement possible également. C'est ça.
J'insiste dessus parce que vous savez qu'il y a des circonstances où il y a une voiture qui est accidentée, il y a des fuites par exemple de carburant, un incendie peut se déclarer à tout moment. Donc je pense qu'il est nécessaire aussi de sécuriser le véhicule, sauf si je me trompe.
Oui, mais c'est l'occasion pour nous de profiter également pour dire à toute personne qui ont des activités en bordure des routes également, lorsqu'il y a des situations pareilles, par exemple, ceux qui vendent des carburants, c'est nécessaire également de les dégager parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver d'un moment à un autre. Et s'il y a également des petits-enfants ou des personnes en bordure également, il faut également profiter de la même occasion pour se sensibiliser, faire même de bouche à oreille pour que, au lieu de venir créer la foule, il va falloir tout au contraire s'écarter, prendre aussi des dispositions pour ne pas aussi entrer dans la même situation. Donc c'est aussi important de dégager tout matériel, tout bruit, tout ce qui peut mettre aussi toutes les personnes. Parce que vous voyez, lorsqu'on balise, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on balise, c'est pour sécuriser. Mais maintenant, s'il y a quelque chose et qu'il y a encore, par exemple, des chaises ou bien des carburants qui sont en bordure de la route, on est tous exposés en ce moment. On est vraiment exposés. Donc, c'est nécessaire de dégager, que ce soit les véhicules, que ce soit les motos, que ce soit des moteurs, si c'est même, par exemple, un moulin à écraser qui est à côté. C'est très, très nécessaire de discuter également, de parler également à celui-là. Peut-être qu'il faut procéder même par des sensibilisations pour que cela, par exemple, pour la prochaine fois, sache que s'il y a des accidents de circulation en bordure ou bien au milieu de la route, il va falloir arrêter tout moteur. C'est juste pour quelques minutes de temps pour nous de dégager tout ce qui est incombe le malaise. Et puis, ils pourront retrouver et reprendre leur activité le plus calme possible.
Alors, dans l'hypothèse où un accident de la circulation implique un motocycliste qui a un casque, est-ce qu'il est recommandé de retirer le casque à ce motocycliste victime d'accident?
Un motocycliste qui a un casque à Maroua, bon, je ne sais pas trop, peut-être de l'autre côté vers le sud, mais ici, bon, visiblement, je n'ai pas encore vu. Mais c'est bien de le dégager. S'il n'est pas blessé, si on constate qu'il est blessé, autant mieux le laisser et que c'est des spécialistes qui pourront s'en occuper. Mais s'il n'est pas blessé, on peut l'enlever pour le libérer. Comme je disais tout à l'heure, il faut libérer tout ce qui peut encombrer quelqu'un d'être à l'aise ou de respirer.
Alors, Madame Andaline, lorsqu'un accident a eu lieu et qu'il y a déjà un bon moment et que les accidentés sont déjà en train d'être secourus, quelle doit être l'attitude des autres automobilistes qui arrivent sur le lieu de l'accident? Parce que, vous avez dit à cet élément, dit parfois on voit des voitures qui arrivent, ils sont sur la scène de l'accident. Au lieu de passer le chemin, ils vont plutôt obstruer la voie publique. Quelle doit être leur attitude?
Les Africains, on est tous pareils. On est tellement curieux au point où on préfère aller voir ce qui se passe au lieu d'aider. Et quand on vient même voir ce qui se passe, c'est pour filmer et balancer sur la toile. Donc le mieux pour moi ici, c'est qu'il n'est pas nécessaire de créer l'attroupement. Il n'est pas vraiment nécessaire. Ce n'est pas aisé de créer l'attroupement. Il faut tout au contraire se faire sensibiliser, que ce soit dans les ménages, que ce soit autour de nous, que ce soit avec des amis, que lorsqu'il y a un accident et qu'il y a déjà quelques personnes qui sont en train de porter secours et que nous, si nous ne sommes pas utiles, vraiment, ça ne sert vraiment à rien. C'est vrai qu'il faut se rapprocher pour identifier si c'est des personnes que nous connaissons. Mais lorsque nous nous approchons et nous rendons compte que ces personnes ne sont pas des personnes que nous connaissons, si nous pensons que nous pouvons être utiles à ceux qui sont en train de porter secours, rendons-nous utiles. Si nous pensons que nous ne sommes pas utiles vraiment, c'est mieux de dégager le plus rapidement possible. C'est tout ce que je peux dire.
Alors, Madame Andaline Dabé, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Pour conclure, est-ce que vous avez des conseils à prodiguer aux usagers de la route pour les aider à mieux secourir les accidentés sur la voie publique, en plus de ce que vous avez donné comme explication plus haut?
Oui, s'il faut donner quelques conseils, merci déjà de revenir là-dessus. C'est que je dirais à tout usager, toute personne et toute la communauté, c'est que lorsqu'il y a déjà, premièrement, s'il y a une situation, il faut garder le sang-froid. Il faut éviter toutes sortes de paniques. Si on peut, on le fait. Si on ne peut pas, autant mieux n'est pas faire. Deuxièmement, il faut éviter l'attroupement. Lorsqu'il y a un accident de la route, un accident de circulation, un accident de tout genre, il faut vraiment éviter l'attroupement. Parce que vous voyez, lorsqu'on se rapproche beaucoup plus de ces personnes, parfois, ça chauffe, ça fait chauffer la tête et ça peut créer encore autre incident sur la vie de la personne. De deux, s'il y a possibilité de se rendre utile, je dis toujours, si on peut se rendre utile, il faudra le faire. Si on ne peut pas, qu'on ne le fasse pas. S'il y a des moyens, s'il y a des engins qui sont garés là et que les sapeurs-pompiers tarderaient, par exemple, à arriver, par exemple, s'il y a des véhicules, pourquoi ne pas utiliser, se rendre utile avec son engin pour pouvoir amener la victime à l'hôpital pour se faire soigner, d'autant plus que c'est aussi un individu. Cette situation qui est arrivée, ça pourra aussi être, ça pourra être notre cas aussi demain ou après-demain. C'est ce que je peux dire sur cet aspect-là.
Madame Andaline Badé, Apolline Marie, présidente du comité d'arrondissement de la Croix-Rouge de Marois 1er et moniteur secouriste, merci d'avoir accepté cette invitation de Radio Serré.
C'est partagé. Je suis déjà très, très, très contente d'apprendre que la radio au Serré est à Miskine, dans le comité d'arrondissement de Marois 1er. Déjà, je suis fière d'entendre que vous avez une très longue distance d'émetteur. Sur 6 départements, nous avons déjà 4. C'est une très, très, très bonne chose. Mais maintenant, ce que je peux dire, je voudrais profiter de cette même occasion pour inviter également les volontaires sécuristes de la Croix-Rouge de Marois 1er à se faire se rapprocher du DM pour déposer leur dossier par rapport au recyclage qui est planifié déjà. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Merci.
Chers usagers de la route, je vous propose à présent d'écouter un petit résumé en langue foufouldée de cet échange avec la présidente du comité de la Croix-Rouge de Marois 1er. C'est avec le concours de Badriatou Bello Bouba.
Hedito be on don kedito Siriyawa mon hutinirgo lawol a radio Osere. Siriyawa hande don wolwana wallinde arande to goddo hebi fergere do labi. Madame Andaline Babe Apolline Marie, goddo nder wallitobe aran en to wodi go fergi goddo en den kanko wonete mawdo ha comité arrondissement de la Croix-Rouge de Marois 1er wodon wolwana en dede andal mako ha halaka dako en mandoto doko o wien to en don yeso accident ji walla en don der accident man dako ngadeten aranol kam goddo hollina dede no yimbe pamrata accident don ha babal gal ngam dum hisna to wodi waranbe bo wadgo accident man be ko doido man do ori engam man en poti en kocha leggal ganye wala bo hudoji keben no kolliniren wodi accident ha babal gal ida bol bo gatanen fergibe man hakkilo daren dede noy fergere man yottanibe daren to be don do hakkilo mabbe daren to be don pofa enden bo daren to iyam mabbe don yaha tata bol bo sei matinen wallitobe en poti en yowna pompie ha lawol telefon gotel gotel jetati enden to goddo yawnibe bo wiabe inde mun dedei no be keptirta dum e wiabe ha accident man wadi wiabe dedei noy nauni dedei noy dum yottanibe e ko be ngadi daga accident man wadi en don timmina be nayabol sey balliten fergibe amma to goddo ala jangirde gal ko larani dum kam dayo fijirgo pergido ha dedei no fergere goddo man yotti sey tiryanen goddo man babal bongal hidde ko wallitobe garoya e to dum wadi sey dum yare bariki bo den bo jaren mo bariki wa urdanga badago der wakkati wallitid ko man ta kultoren ta chaklo den gam to en kultorien chaklake en tammaki wawgo yidago pergido haragare kubaruwol men en don yama yimbe laabi jawmu baskuruji jawmu moto en be jawmu motaji be kabda be ngada jangirde no de famdiri fu de deino be mbawa be ngido goddo to fergake e jangirde man to goddo yidi badito comité de la croix rouge burdan gabadago heba o heba jangirde man tangi jiten sardi ji lawol kam di meden en fu e ngam man sei aynen di kutiniren di heba kisnen e kisen accident ji din poti mara batte tiatude.
Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs, c'est ici que nous refermons cette autre production de votre émission « Usagers de la route » dans laquelle nous avons parlé des premiers secours en cas d'accident avec une experte en secourisme, Madame Andaline Badé-Apolline-Marie, présidente du comité d'arrondissement de la Croix-Rouge de Marois 1er, à qui nous disons une fois de plus merci pour sa précieuse contribution. Comme leçon à retenir lorsqu'on est confronté à un accident et qu'on est en capacité d'agir, il faut tout d'abord sécuriser la zone accidentée pour éviter les suraccidents, ensuite évaluer l'état des victimes, puis alerter ou faire alerter les secours et enfin secourir proprement dit les blessés. En fonction de la gravité de l'état dans lequel se trouve une victime, il faut délicatement le placer dans une position confortable en attendant l'arrivée des secours. Si par contre la situation l'exige, il faut rapidement transporter les victimes dans la formation sanitaire la plus proche. Durant toute votre intervention, vous devez garder votre sang-froid, sinon vous ne serez pas en mesure de rassurer et de secourir convenablement la victime. Enfin, nous encourageons tous les usagers de la route, piétons, cyclistes, motocyclistes et automobilistes, à suivre une formation basique en premier secours. Cela peut s'avérer utile pour sauver des vies en cas d'accident de la circulation. Pour cela, il vous suffit de vous rapprocher du comité de la Croix-Rouge le plus proche de vous pour avoir toutes les modalités y afférentes. On ne le dira jamais assez, le code de la route est une affaire de tous et nous devons toujours le respecter afin d'éviter d'occasionner ou d'être victime d'accidents dont les conséquences sont parfois tragiques. La production de cette émission a été assurée par Maxino à la technique, Badria Toubel-Bouba à la traduction, David Bayan à la coordination et moi, Steve Febi, au micro de présentation. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour aborder un autre thème sur la sécurité routière. D'ici là, restez prudents sur la route.